Bien, je vous présente Loïc Blondiot, qui travaille depuis très longtemps sur des questions qui sont au cœur de ses préoccupations. Comment est-ce qu'on peut mieux connaître les attitudes, les opinions des citoyens ordinaires? Et est-ce que les dispositifs qu'on utilise, institutionnels ou technologiques, comme les sondages, sont appropriés? Comment est-ce qu'on pourrait améliorer les mécanismes qui permettent de mieux connaître cette opinion et mieux la prendre en compte dans les décisions. Et ça l'a amené progressivement à travailler sur les sondages d'opinion, puis sur les mécanismes de démocratie participative. Et donc, il a écrit un livre, un très bon livre, que j'ai lu à cette occasion spécialement, parce que je n'avais pas eu l'occasion de le lire, et qui est un excellent livre, que je vous conseille vivement, très sincèrement, qui fait le point de façon très claire de l'ensemble des avantages, des inconvénients ou des difficultés, des problèmes aussi en termes de philosophie politique que posent tous les mécanismes de démocratie participative. Donc sans attendre plus longtemps, je vais lui demander de vous parler de tout ça et ensuite on aura une petite discussion et là probablement je reprendrai la parole. Loïc?
Oui, un mot liminaire pour vous dire que j'ai hésité à venir, hein, sachant que c'était aujourd'hui un jour de manifestation, de mobilisation, d'un mouvement qui me tient à cœur, comme à pas mal de mes collègues enseignants-chercheurs. J'ai même eu un cas de conscience. Je me suis dit, est-ce que je viens quand même? J'ai le sentiment qu'on est déjà pas mal mobilisé à Grenoble. J'ai le sentiment aussi, on m'a dit que les manifestations avaient lieu ce matin, ce qui fait que le fait de faire cette intervention cet après-midi en quelque sorte ne venait pas briser la grève, ce qui était pour moi quelque chose de tout à fait essentiel. Je pense aussi que d'un certain point de vue, cette question de la démocratie participative n'est pas totalement, comment dire, étrangère à ces mobilisations. C'est bien parce qu'on a un gouvernement qui n'est pas forcément en avance, hein, sur le domaine de la concertation, de la consultation, que des problèmes se créent, que des mobilisations parfois violentes et radicales ont lieu. Je pense aussi que par ailleurs, les sciences sociales ont un rôle à jouer, les sciences en général, évidemment dans une démocratie, mais les sciences sociales tout particulièrement, comme lieu de débat, comme lieu de réflexivité politique, et que tout ce qui les remet en cause dans leur autonomie est un problème pour la démocratie. Donc voilà, une fois et je suis tout à fait prêt à discuter à la fin de mon intervention de cela. Et pour vous dire que je ne suis pas du tout indifférent à ce qui se fait ailleurs, et que même si je suis ravi de venir ici dans le cadre de la préparation du forum sur réinventer la démocratie de la République des idées. Alors, mon topo, c'est un topo qui va être un topo de présentation de mon argument autour de la démocratie participative. Comme l'a dit Yves, je travaille depuis très longtemps, pas depuis si longtemps que ça, hein, mais quand même depuis assez longtemps sur ces questions. L'une des questions que je dois me poser et qu'il faut me poser, c'est pourquoi continuer à s'intéresser à une thématique qui a été caricaturée, galvaudée, notamment lors de l'élection présidentielle de 2007, où on a eu droit à une controverse de type politique autour de la démocratie participative qui a contribué, me semble-t-il, à beaucoup en parasiter le sens. Pourquoi m'intéresser à une catégorie qui est au final une catégorie dont le succès repose sur l'ambivalence, sur le flou, hein. La démocratie participative, chacun, comme dans une auberge espagnole, chacun vient y mettre un petit peu ce qu'il entend y mettre, et il y a des différences d'interprétation, des différences de pratique qui sont susceptibles de remettre en cause la notion même et l'idéal même de démocratie participative. Alors pourquoi je m'y intéresse? C'est parce que ma question à moi, générale, et j'entrerai après dans le détail, c'est la question de la possibilité d'institutionnaliser des formes d'interpellation, de participation, de discussion démocratique qui impliqueraient non seulement des élus, des experts, mais aussi des citoyens, citoyens organisés et citoyens ordinaires. Citoyens lambda, hein, pour prendre une expression générale. Est-ce qu'on peut penser des interfaces entre ce que Pierre Rosanvallon appelle la contre-démocratie et les institutions classiques de la représentation politique? C'est ça ma question. elle est liée à une, comment dire, à une situation politique dans laquelle soit l'on considère que la démocratie représentative telle qu'elle fonctionne ordinairement fonctionne bien. Et alors, bon, pourquoi la remettre en cause, hein? Pourquoi changer finalement la donne, notamment sur le plan institutionnel? Il y a toute cette réflexion sur les institutions elles-mêmes que je n'aborderai pas, mais qui est parallèle à celle que je mène sur la participation. Ou alors, il faut tout changer. Et là, c'est la révolution, hein? Et sont cohérents ceux qui nous disent tout va bien et ceux qui nous disent il faut tout changer. Si on refuse cette alternative, nous ne pouvons pas faire l'économie d'une réflexion sur des dispositifs, des pratiques, des institutions nouvelles qui seraient susceptibles de donner vraiment la possibilité aux citoyens ordinaires d'entrer dans le processus de fabrication de la décision politique. Alors, je vais organiser mon topo en quatre points. Premier point, partir d'un paradoxe, d'une situation paradoxale, d'une configuration paradoxale, dans laquelle on n'a jamais autant parlé de participation, et en même temps, dans laquelle les résistances à cette idée n'ont jamais été aussi fortes, mais restent toujours extrêmement fortes. Mon deuxième point, c'est un effort de clarification de ce que pourraient être les finalités, la raison d'être de cette pratique de la participation et les modalités, hein, qu'est-ce que l'on entend par démocratie participative aujourd'hui en France, à l'étranger. Troisième point, puisque je ne suis en aucun cas angélique sur cette matière, au contraire, je crois qu'il convient de faire la critique de la démocratie participative telle qu'elle fonctionne aujourd'hui un peu partout dans le monde, donc pointer les limites et les effets pervers. Et dernier point, pourquoi faut-il quand même s'y intéresser? Pourquoi finalement tout cela n'est pas complètement indifférent? Pourquoi cela produit des effets et qui méritent que l'on s'y attarde? Donc premier point, configuration paradoxale. Avec un collègue à moi, Yves Saint-Omer, il y a quelques années, en 2002, on avait forgé une locution qui est l'impératif participatif. C'est-à-dire que, grosso modo, tout se passe comme si, dans les sociétés démocratiques contemporaines, une norme diffuse, peu construite, peu élaborée, tendait à valoriser la consultation, l'association des citoyens à la discussion des choix politiques. Hein, une norme vraiment très informelle, hein, mais qui semble expliquer pas mal de comportements. Cette norme, elle pourrait s'expliquer par un certain nombre d'évolutions structurelles. Pas mal de théories sociologiques semblent aller dans l'idée selon laquelle la prise en compte du point de vue, de l'avis, des connaissances des citoyens ordinaires serait aujourd'hui une nécessité, hein, de l'action publique. Cadre théorique qui pointe l'amélioration du niveau de compétence, d'information, Yves a parlé de compétence, d'information des citoyens ordinaires dans un certain nombre de domaines et surtout dans les domaines qui les intéressent tout particulièrement. Deuxième évolution, capacité à réagir aux projets qui leur sont imposés, d'en haut, qui obligent de nouvelles formes de négociation de ces projets, de préparation de ces projets. C'est ce qu'on a appelé le syndrome NIMBY, hein, d'une manière un peu stigmatisante, not in my backyard. Aujourd'hui, vous ne pouvez plus prévoir l'implantation d'un incinérateur, d'une ligne à très haute tension, sans voir se mobiliser, souvent violemment, des riverains qui sont capables de recourir à des registres de critiques qui ne sont pas uniquement particuliers. Hein, ils sont capables aussi de jouer sur des arguments de justice ou des arguments beaucoup plus généraux. Des sociétés aussi où se développent des technologies dans lesquelles les coûts de la prise de parole dans l'espace public ont baissé. Notamment, alors il y a tout un délire autour de la démocratie électronique, de la démocratie numérique, mais force est de constater qu'aujourd'hui, la possibilité de se faire entendre dans l'espace public, par ce biais-là, alors pas de n'importe qui, des deux côtés, hein, ceux qui prennent la parole ne sont pas n'importe qui, et ceux qui les écoutent et qui fréquentent Internet ne sont pas n'importe qui, mais qui commencent à compter, et tout cela... situe finalement un contexte, un tableau, un arrière-fond dans lequel il semble émerger aujourd'hui une double demande de prise en compte du point de vue des citoyens ordinaires, mais du point de vue des citoyens ordinaires dès lors qu'ils ont quelque chose à dire, dès lors qu'ils ont envie de dire quelque chose, et une demande de restitution, de justification de l'action publique. Ce qui ne veut pas dire que les citoyens souhaitent prendre la place des élus. Il n'y a pas aujourd'hui de revendication d'une démocratie directe ou d'une autogestion. Ce sont des thèmes qui ont très largement disparu du discours politique, qui ne sont plus portés que par une petite minorité. Il n'y a pas non plus de revendication de la démocratie participative. On ne voit jamais des gens descendre dans la rue en disant « nous voulons de la démocratie participative ». Mais lorsqu'un acteur en position de décider oublie de consulter ou ne pratique pas cette concertation, il se voit renvoyer cette absence comme une faute politique. Donc, pour le coup, ça c'est le premier élément de ce tableau. Le deuxième élément de ce tableau, cette norme, elle s'inscrit dans des textes réglementaires, elle s'inscrit dans du droit. Elle a commencé à s'inscrire dans du droit, dans deux domaines, que je passerai pas en revue de manière très précise, mais qu'il est important de prendre en compte. Le domaine de l'environnement, aboutissement de cette législation sur la participation des citoyens aux décisions relatives à des projets qui ont un impact sur l'environnement. L'aboutissement, c'est l'un des articles de la Charte de l'environnement inscrit dans notre Constitution qui fait de la participation des citoyens dans ce domaine une norme constitutionnelle. Donc nous avons un texte symbolique qui érige cette norme en qui lui donne une valeur constitutionnelle. Vous avez d'autres textes plus ou moins connus, deux législations parmi d'autres, législation sur le débat public, sur la Commission nationale du débat public qui date de 1995. Loi Barnier en 1995, qui a été refondue et étendue en 2002. Et qui, pour toutes les grands projets d'infrastructure, tous les projets en particulier de plus de 300 millions d'euros, prévoit la saisine obligatoire d'une instance qui organise un débat, en principe, très en amont de la prise de décision. Je dis bien en principe, puisqu'il arrive effectivement que la décision soit très largement formatée et prise avant le débat public, mais même dans cette hypothèse-là, ce débat public, mené par une autorité administrative indépendante, oblige le maître d'ouvrage à justifier son projet et donne la possibilité aux opposants à ce projet ou aux critiques ou aux citoyens ordinaires de s'informer et de s'exprimer. Et pour moi, c'est une avancée démocratique qui est largement inspirée d'une institution québécoise comparable. Deuxième texte, une convention internationale signée sous l'égide des Nations Unies, la convention d'Aarhus, AARHUS, en 1998, ratifié en 2003, édicte à peu près la même norme que la charte de l'environnement, à savoir un triple principe d'information, de participation et d'action en justice dans ce domaine de l'action publique. Alors reste la question de l'application de cette norme, de la manière dont les tribunaux peuvent l'interpréter, de sa valeur juridique effective, mais là encore, au plan des symboles, nous avons quelque chose comme un ensemble de textes de référence. Deuxième domaine que l'on connaît mieux généralement, c'est le domaine de des politiques urbaines. À la fin des années 90 et au début des années 2000, un ensemble de textes a prévu tout un ensemble de dispositifs ou de détours participatifs obligatoires, par exemple, pour l'élaboration des PLU, des plans locaux d'urbanisme. Il y a une consultation qui est nécessaire. Les conseils de quartier sont issus d'un texte de 2002. Les conseils de développement issus d'un texte de 1999 à l'échelle intercommunale. Donc des embryons, d'un certain point de vue, de procédures susceptibles de donner un contenu effectif à cette norme participative. Alors, le troisième élément de ce tableau, c'est que l'on a affaire à un phénomène qui n'est pas français et qui est loin d'être spécifiquement français. C'est un mouvement qui est international, qui est simultané, c'est-à-dire que finalement beaucoup de choses se sont faites dans les années 90 dans des contextes très différents. L'Amérique latine, L'expérience phare, très souvent citée, c'est l'expérience du budget participatif de Porto Alegre, au Brésil, mise en place par le Parti des travailleurs de Lula, qui a cette spécificité de produire un impact direct sur la décision. Mais vous avez dans le monde anglo-saxon, et le gouvernement de Tony Blair et encore aujourd'hui le gouvernement de Gordon Brown est extrêmement impliqué dans ce discours autour de la démocratie participative, mais dans un contexte radicalement différent. Celui-là, c'est le contexte du nouveau management public. C'est l'idée qu'on doit améliorer la qualité du service public en rapprochant la décision des usagers. Et c'est un contexte qui est très largement apolitique. Hein, et qui peut s'inscrire dans un environnement politique plutôt libéral, hein, ce qui n'est pas complètement le cas de la troisième voie de Blair, mais ça se discute, mais on voit bien qu'on a des usages de même procédure, ou en tout cas de même concept, qui ne vont pas forcément dans le même sens. La Banque mondiale, depuis plusieurs années, milite pour la démocratie participative, ou la Commission européenne, depuis un livre blanc sur la gouvernance européenne de 2000, a fait de la démocratie participative une thématique d'action. La France, là-dessus, est relativement en retard. Elle importe des procédures, elle les adapte et avec pas mal de difficultés, de bricolage et de résistance. Et puis, dernier élément qui participe de cet arrière-plan, on a une professionnalisation de ce champ. Régulièrement, vous trouverez des annonces dans les journaux destinés aux agents des collectivités locales proposant des postes de chargé de mission, la démocratie participative. C'est la preuve que les collectivités locales inscrivent cette dimension dans leur action. Vous avez des consultants qui vendent de la participation, des ingénieurs qui se spécialisent dans la concertation, et même comme moi, des universitaires qui travaillent sur ces questions et qui forment une sorte de nébuleuse qui donne finalement une sorte de réalité à cet idéal. Et c'est comme ça que les choses se transforment, c'est quand des acteurs sont là pour faire avancer des normes, même quand ces normes au départ sont extrêmement floues. Mais face à cela, il y a des résistances extrêmement fortes, et c'est le deuxième point de mon paradoxe. Le deuxième terme de mon paradoxe. On l'a vu au moment de la campagne présidentielle, quand Ségolène Royal a évoqué la possibilité de mettre en place des jurys de citoyens. On a vu dans le Figaro, dans les médias, des journalistes, des acteurs politiques de plus ou moins bonne foi dénoncer les tribunaux maoïstes, dénoncer le retour à Robespierre, dénoncer cette menace qui pèserait sur la représentation. On a quelque chose là comme un symptôme d'une vision des excès de la démocratie qui est tout à fait intéressante à étudier comme telle. Jacques Rancière a parlé de la haine de la démocratie dans un livre récent. Serge Audier, dans un autre livre tout à fait intéressant aussi sur mai 68 et la critique de mai 68, met en évidence le fait qu'aujourd'hui, il est légitime de critiquer les excès de la démocratie, le retournement de la démocratie contre elle-même, de la même manière que dans les années 70, on avait parlé de la crise de la gouvernabilité des sociétés occidentales. Il y avait un fameux rapport Crozier-Huntington là-dessus, en disant le problème des démocraties, c'est qu'elles ont trop de demandes en provenance du public, c'est qu'elles sont soumises à trop de revendications. Le problème des démocraties, c'est qu'il y a trop de démocratie, alors que moi, j'aurais tendance à utiliser la formulation de Dewey, c'est le problème de la démocratie, c'est qu'il n'y a pas assez de démocratie, et on peut leur trouver des solutions par plus de démocratie. Ce symptôme-là, il est révélateur du point de vue ultra-majoritaire des élus. Les élus sont à la fois, c'est ça le paradoxe, des offreurs de participation, c'est eux qui les mettent en place, et c'est une situation très différente à celle des années 60, où dans les années 60, il y avait une demande, là, en provenance des associations, des groupes d'action municipale. Aujourd'hui, ce sont très largement les élus, les opérateurs, qui proposent des dispositifs et qui, en même temps, sont persuadés qu'ils sont les seuls titulaires, qu'ils ont le monopole de la légitimité, de la définition de l'intérêt général, et que toute autre forme de légitimité n'est pas compatible avec celle de la représentation. Donc une vraie ambivalence, et qui s'est exprimée lors des débats parlementaires, et qui s'exprime lorsqu'on les fréquente, très souvent off, en dehors d'une toute petite minorité d'élus qui finalement font le pari de cette démocratie participative, l'immense majorité, à gauche et à droite, finalement n'en veut pas. Deuxième Deuxième groupe concerné, les experts, les techniciens, les gens qui travaillent dans les services, qui sont des intermédiaires de l'action publique, qui eux se sentent vraiment chahutés par la mise en place de procédures participatives et entretiennent un discours extrêmement critique à leur égard. Et c'est vrai que dans la pratique, la démocratie participative complique beaucoup leur action. Elle les oblige à assister à des réunions le soir, elle les oblige à prendre en compte des données qu'ils n'ont pas de facilité à prendre en compte, qui n'ont pas été formés à prendre en compte, hein, des données qui ne sont ni économiques, ni techniques, qui ne sont pas souvent quantifiables, tout cela leur pose un certain nombre de problèmes, et beaucoup font l'autruche en disant voilà, c'est la dernière lubie des élus, attendent que ça se passe. Et puis le troisième type d'acteur qui est extrêmement dubitatif à l'égard de ces procédures sont les citoyens eux-mêmes. Les citoyens, ça fait plus de 2 siècles qu'ils sont habitués à ce qu'on ne les écoute pas, hein, qui sont habitués à ce que l'intérêt général finalement se définisse contre les intérêts particuliers et dans une sorte de huis clos entre l'État, l'administration, les élus et les experts, et les citoyens n'ont pas eu l'habitude d'être invités, donc ils sont un petit peu habitués à ce que ces dispositifs soient des leurs, soit des subterfuges, soit finalement des diversions faites pour amuser la galerie, sans que véritablement il ne s'y passe véritablement des choses. Certains jouent le jeu de la participation. On a des citoyens qui s'investissent dans les conseils de quartier, qui s'investissent dans un certain nombre de procédures, et ces citoyens sont toujours placés dans des situations absolument infernales, dans lesquelles ils sont renvoyés en permanence à leur illégitimité. Ils sont renvoyés en permanence au fait qu'ils, soit ils connaissent trop bien les dossiers, alors à ce moment-là, ils deviennent des professionnels, soit ils ne les connaissent pas assez bien, et à ce moment-là, il vaut mieux qu'ils se taisent. Ça a été tout à fait documenté par un certain nombre de travaux, dès que la participation marche trop bien, c'est-à-dire que dès que les citoyens vraiment la font vivre, en demandant des choses, en cherchant à établir un rapport de force avec les élus, à ce moment-là, le débat s'interrompt immédiatement et les élus reprennent la main parce que, et ça c'est tout à fait important à prendre en compte, les élus ont peur de la participation. Ils ont peur du débordement toujours possible de ces dispositifs participatifs. Hein. Il y a cette crainte-là, est une crainte physique. Être face à une assemblée hostile, c'est quelque chose qui est une épreuve pour les élus, et une crainte statutaire. Hein. Démontrer dans un débat que l'on ne sait pas, on n'en sait pas plus finalement que ceux en face desquels on se trouve, hein, ce qui arrive très souvent dans des situations ordinaires de la discussion des projets. Hein. Face à vous, vous avez des gens qui connaissent les sujets aussi bien que vous et qui ont finalement des arguments auxquels vous ne pouvez pas répondre. Et tout cela est extrêmement déstabilisant. Voilà le premier point. Alors pour sortir de ce paradoxe, je vous proposerai une clarification élémentaire fondée sur une littérature qui aujourd'hui existe, qui a beaucoup travaillé sur ces questions, une clarification de deux choses. Des finalités de la démocratie participative, pourquoi ces gens-là souhaitent-ils faire de la démocratie participative? Ça c'est une première question. Quels sont les usages? Quels sont les projets? Alors il y a tout un ensemble de projets qui sont mobilisés derrière ces procédures. Des projets qui ne sont pas toujours des projets de nature démocratique. On ne fait pas de la démocratie participative très souvent pour des raisons qui renvoient à la démocratie. On le fait pour canaliser un conflit, pour l'anticiper. On le fait pour connaître un territoire. Hein, pensez que pour les municipalités, notamment en banlieue, les relais, les instruments de connaissance de la société civile sont beaucoup moins puissants qu'ils ne l'étaient autrefois. Pensez au très bon travail sur les municipalités de la banlieue rouge, la banlieue communiste en Île-de-France, qui finalement se sont déplacées vers des dispositifs de démocratie participative pour reconstituer des liens avec le territoire et des groupes d'acteurs mobilisés. Donc il y a des tas de raisons non explicites de faire de la participation. Hein. Il faut bien donner quelque chose à un élu à qui, pour lequel il reste pas de délégation. Tiens, on va te donner la démocratie participative, ça ne mange pas de pain. Et c'est souvent des élus minoritaires, des élus un peu marginaux, à qui on refile ce genre de... et qui, quelquefois, en font quelque chose. C'est ça qui est intéressant. Ça, c'est l'ensemble des intentions hein, qui ne se disent pas forcément en termes politiques. Si on renvoie aux intentions politiques qui sont derrière la participation, les projets, pourquoi faudrait-il faire participer les citoyens dans la représentation? Là, il y a trois ensembles de projets politiques qu'on peut identifier, à la fois dans le discours des acteurs, mais aussi dans la théorie politique. Je m'intéresse beaucoup à la manière dont la théorie politique conceptualise ces questions, la débatte, et effectivement, on trouve une homologie, finalement, entre un certain nombre de travaux de philosophie politique et le discours des acteurs. Premier projet, c'est politiser la société, fabriquer des bons citoyens. Mais fabriquer des bons citoyens, ça peut s'entendre de différentes manières. Ça peut s'entendre, comme l'entendent certains élus, des citoyens qui seront empathiques, des citoyens qui seront bien informés, des citoyens qui seront conciliants. Hein, c'est un peu ça. Mais pour des gens qui se réclameraient, par exemple, de la perspective d'un Tocqueville ou d'un John Stuart Mill, l'idée, c'est qu'il faut en permanence maintenir la vigilance citoyenne. Il faut que les démocraties meurent de l'indifférence et de l'apathie des citoyens. Donc il faut se donner les instruments qui rendent possible. On ne peut pas créer par décret cette politisation. Hein. On ne peut pas la décréter, cette politisation, mais en tout cas, l'encourager de multiples manières et mettre en place les lieux qui la rendent possible. Ça, c'est un premier objectif. Deuxième objectif, produire de meilleures décisions. Ça, c'est un objectif qui, en France, n'est absolument pas, en tout cas dans le discours des politiques, véritablement présent. Le discours inverse, ça prend du temps. Ce sont des citoyens incompétents, irrationnels. Pourquoi faut-il finalement les intégrer hein? Tout cela est vraiment une perte de temps et d'argent. En même temps, de bonnes raisons amènent à croire qu'à travers la démocratie participative, on limite le risque de produire des décisions, un, qui ne seront pas acceptées par la population. Hein, cette dimension de légitimation de la décision est quelque chose qui n'est absolument pas indifférent pour l'avenir de nos démocraties, et puis des décisions qui auront fait le tour des solutions envisageables, le tour des arguments. Hein. Derrière la démocratie participative, il y a l'idée aussi de cette exploration, de ce que Calon, Lascoum et Barthes appellent cette exploration d'un monde commun, c'est-à-dire qu'on explore finalement ce qu'est la société au moment où on prend la décision et ce qu'elle pourra devenir à l'issue du processus de décision. Tout cela, on trouve ça formulé chez Habermas, hein, à travers sa définition de la démocratie délibérative, mais je crois que c'est un second registre d'arguments. Troisième registre d'arguments, c'est celui auquel moi j'émarge le plus facilement, dans une réflexion sur les inégalités qui sont au cœur de la participation démocratique dans nos démocraties. Hein, c'est l'idée qu'aujourd'hui, les institutions de la démocratie représentative ont un biais sociologique. Hein, les partis politiques, les associations, a fortiori les assemblées représentatives, ne permettent pas un accès facile aux citoyens les plus fragiles de nos démocraties. Hein. Et on a tout un ensemble de populations qui sont dans une situation, dans un processus de désaffiliation politique, parce qu'elles ne sont plus représentées ni dans l'espace public, ni dans l'espace de la représentation. Et cette idée d'une démocratisation de la démocratie me semble vraiment au cœur de ce projet de la démocratie participative. Et je dis souvent qu'elle ne vaudrait pas une heure de peine si elle ne permettait pas de rectifier, même un tant soit peu, ces asymétries et ces inégalités. Alors cette perspective, elle est beaucoup plus rare. En France notamment, elle est très peu présente. Elle l'est beaucoup plus dans un contexte latino-américain notamment. Deuxième élément de clarification relatif aux modalités de la participation. Il y a autant de manières de penser et de construire la démocratie participative, et notamment de construire les publics qui sont mis en scène et mis en mouvement par la démocratie participative, que de procédures. Il y a trois grandes familles. Dans mon livre, j'identifie trois grandes types de procédures. Le modèle du budget participatif, donc un modèle d'assemblée locale sur une base relativement permanente qui est associé au processus de prise de décision et qui renvoie soit à l'ensemble du public d'un territoire, soit à des segments de ce public. Pensez au conseil de jeunes, au conseil d'enfants, au conseil de tout ce que vous voulez, ou soit en relation avec un service public. Il y a beaucoup il y a les conseils locaux des services publics, mais il y a beaucoup de procédures qui finalement sont liées à un équipement, les CLIC par exemple, ou les commissions locales de l'eau, qui sont des dispositifs participatifs, mais extrêmement spécialisés et sectoriels. Et puis le budget participatif, qui est finalement le plus avancé de ces tentatives d'association des citoyens, puisqu'il fait vraiment partager la décision avec les assemblées de quartier. Ces dispositifs fondés sur une base permanente posent un problème spécifique, un double problème. Un problème de représentativité, de qui représente qui dans ces procédures, qui se pose inéluctablement, et le pose aussi la question d'un conflit presque inéluctable entre ces institutions-là, conflit de légitimité, et les institutions représentatives élues. Hein. C'est-à-dire qu'il y a un problème de concurrence qui se pose, qui fait que la plupart de ces comités, conseils, sont tenus en lisière par les élus, sont cantonnés à un rôle secondaire, à un rôle mineur, parce que leur légitimité même est toujours mise en question et remise en cause par ceux qui les ont mis en place. Deuxième problème, deuxième dispositif, le modèle du débat public. Le modèle du débat public, je vous l'ai expliqué, ce sont des formes de consultation, de concertation beaucoup plus ponctuelles, liées à un projet, liées à un horizon d'action, liées à un objet particulier. Hein. Et pour moi, ces dispositifs sont ceux qui, à l'heure actuelle, produisent les résultats les plus intéressants, puisque finalement, il y a un intéressement de ceux qui y participent, et il y a la possibilité d'une co-construction finalement de la décision publique, même si, je vous le rappelle toujours, les différentes parties en présence ne sont pas à égalité de pouvoir dans ces procédures. Troisième, mais ces dispositifs sont aussi soumis aux critiques. Troisième modèle, le modèle du jury de citoyens, ou de la conférence de citoyens, c'est un modèle plus spécifique, issu des sciences sociales, très largement. On recourt notamment au tirage au sort pour recruter un groupe qui peut aller de 20 à 300, c'est le sondage délibératif de James Fishkin, à 300 citoyens, donc ordinaires, à qui on donne une information, que l'on fait débattre, ensemble, que l'on confronte à des experts et à qui on demande un avis qui est censé éclairer l'avis du décideur. Il y a eu une conférence de citoyens sur les OGM en France, il y en a eu plusieurs depuis, hein, sur les nanotechnologies en Île-de-France, mais on peut imaginer aussi des jurys de citoyens à une échelle plus étroite. On peut penser, par exemple, des expériences tout à fait intéressantes à Saint-Brieuc, il y a quelques années, une controverse autour d'une déchetterie, d'un incinérateur, plutôt, qui était devenu insoluble, et les différentes parties en présence ont dit on va monter une conférence de citoyens avec des garanties, et le maître d'ouvrage a dit je m'appuierai sur l'avis, c'est-à-dire c'est engagé, c'est lier les mains pour sortir du conflit, et ça s'est fait relativement, d'une manière relativement efficace et acceptée par l'ensemble des parties. Ce que je veux dire, c'est que derrière toutes ces procédures, il y a des théories, des visions du public, des visions de la légitimité, et j'ai souvent tendance à dire que le diable est dans les détails, c'est-à-dire que c'est dans les détails de la manière dont on met en place ces procédures que la démocratie doit être recherché, selon que l'on donne du temps aux citoyens pour réfléchir, que l'on leur donne des armes, des possibilités de se doter de contre-expertise, etc., etc., tout change. Troisième point, les limites, les effets pervers, hein, de ces procédures dans l'action publique. Quatre points, quatre questions auxquelles sont confrontées toutes les procédures, sans exception. Premier ensemble de questions, les questions liées à l'échelle. Hein, on fait participer les citoyens à l'échelle du quartier, le plus souvent, à des échelles micro-locales. En réalité, on prend la décision ailleurs, et surtout pas à l'échelle du quartier. Donc là, il y a un décalage extrêmement problématique. L'autre limite de cette démocratie de proximité, c'est qu'elle encourage les égoïsmes locaux, les égoïsmes sociaux. C'est-à-dire que on ne sort jamais le citoyen de son environnement immédiat. On ne le confronte jamais à d'autres qui pourraient vivre dans des situations différentes. Hein, cette idée de la nécessaire diversité des points de vue dans les procédures participatives est tout à fait problématique. L'un des exemples que je cite souvent, c'est l'exemple de la RN13. C'est une voie qui traverse Neuilly. Et depuis très longtemps, un projet a prévu de couvrir cette voie pour limiter les nuisances aux riverains, hein, à Neuilly, de cette RN13. Le projet coûte extrêmement cher. Hein, il se chiffre en centaines de millions d'euros. Un débat public est organisé par la Commission nationale du débat public qui organise le débat auprès des gens de Neuilly. Tout le monde est d'accord. Tout le monde est d'accord pour couvrir, hein, quitte à mettre vraiment beaucoup d'argent en jeu. Donc vous voyez bien que la question de la définition du périmètre du public impliqué dans la procédure dans le dispositif est une question absolument essentielle, hein, puisque vous pouvez oublier des gens qui sont affectés par la décision sans être présents physiquement sur le territoire considéré. Ça, c'est un point tout à fait important. Autre exemple, vous décidez de faire un quartier tranquille comme cela se faisait il y a quelques années après l'élection de Bertrand Delanoë à Paris. Donc, vous pouvez concerter sur le quartier tranquille. Si vous concertez sur le quartier dans le quartier lui-même, vous avez une vision extrêmement déformée du public affecté puisque les voitures passeront de toute façon à l'extérieur. Hein, donc vous avez ce problème d'échelle qui est un problème considérable avec cette difficulté aussi de concevoir des dispositifs participatifs à l'échelle nationale, voire même à l'échelle internationale. J'ai participé au pilotage et à l'expertise d'un sondage délibératif à l'échelle européenne. Vous voyez les difficultés qu'il y a techniques à réunir des gens des 27 pays, ce qui était le cas de l'Union européenne, pour leur faire discuter de l'avenir de l'Europe. Ça s'appelait Tomorrow's Europe, il y a 2 ans. Là, on est dans des situations qui sont extrêmement artificielles d'un point de vue politique. Hein. On fait de la communication, ça c'est sûr. On fait peut-être de la bonne discussion entre les gens qui sont présents là, mais est-ce qu'on peut avoir véritablement un impact sur l'action de la communauté européenne? Ça, c'est quelque chose qui mériterait d'être discuté. Deuxième problème, le problème de l'inégalité. Je vous ai dit que pour moi, la démocratie participative avait vocation à, si possible, inclure des publics qui ne sont pas ordinairement inclus dans la discussion politique et dans le processus de représentation. Alors là, pour le coup, les résultats sont très ambivalents. Dans les conseils de quartier, dans un certain nombre de processus fondés sur le volontariat, sur la cooptation, vous retrouvez des formes d'inégalité sociale, des formes de biais, des biais sociaux qui sont les mêmes que dans l'univers de la représentation. Le seul biais qui n'existe pas, et encore, hein, j'étais récemment sur un territoire où on me disait qu'effectivement le problème se posait, c'est le biais du genre. Il y a souvent autant de femmes que d'hommes dans ces procédures, et j'ai une réponse un peu malicieuse qui consiste à dire c'est parce que les hommes savent qu'il n'y a pas de pouvoir en jeu.
J'allais dire elle est politiquement incorrecte.
Elle est politiquement incorrecte, voilà. Mais c'est parce que les hommes ont compris qu'il n'y avait pas de pouvoir en jeu. Hein, c'est-à-dire que, pour le coup, ce sont des lieux relativement dominés de l'action publique, ce sont des institutions assez faibles. Et dans ces institutions-là, la probabilité pour que des hommes déjà en position s'investissent est relativement faible. Donc, comment faire? Alors, 2 esquisses de solutions. Première esquisse de réponse, sans donner les moyens. Ça n'est pas parce que c'est compliqué, ça n'est pas parce qu'on est presque nécessairement voué à l'échec, qu'il ne faut pas essayer d'inclure dans ces lieux-là, dans ces espaces de discussion-là, dans ces arènes-là, ceux qui ne sont pas prédisposés à y participer. Hein. Sans donner les moyens, c'est faire en sorte de réduire les coûts d'accès à ces arènes, c'est de faire en sorte que plusieurs registres de discours puissent coexister, et pas seulement le registre de l'expert, le registre des rhétoriques des puissants, hein, ceux qui savent déjà prendre la parole en public, qui savent déjà manier les généralités, qui sont déjà informés, mais diversifier, hein, ces modes d'expression. C'est aussi s'en donner les moyens en cherchant Et il y a aujourd'hui des opérations qui parviennent, sont des expériences extrêmement fragiles, des expériences par exemple de capacitation citoyenne qui renvoient à un concept anglo-saxon qui n'est pas traduit en France, qui est intraduisible et c'est pas forcément un hasard, qui est le concept d'empowerment, c'est-à-dire qu'on va donner du pouvoir, on va donner des capacités, on va équiper politiquement des gens qui finalement n'ont pas ces équipements. Extrêmement fragile. Donc, mais c'est possible. Et puis, si c'est pas parce que ça marche pas, qu'il faut pas essayer. Hein, sauf à être dans le déni de cette question. Le deuxième élément, c'est qu'il faut qu'il y ait du grain à moudre. C'est qu'il faut qu'il y ait un enjeu. Il faut que pour des gens qui sont dans des situations de difficulté, d'urgence, il y ait vraiment une nécessité ou en tout cas un intérêt à venir dans ces débats-là. Hein. Il y a des tas de gens pour qui discuter politique, c'est quelque chose qui n'est pas un coût, mais un plaisir. Pour ces gens-là, c'est un coût, et pour que ce coût finalement soit amorti, il faut qu'il y ait des choses à débattre. Et Porto Alegre, de ce point de vue-là, et les expériences latino-américaines, lorsqu'il s'agit vraiment de discuter du tout à l'égout ou de l'éclairage ou du bitumage de son quartier, il y a vraiment une raison de se déplacer dans les réunions publiques. Et de ce point de vue-là, si on ne discute de rien d'autre que de choses extrêmement secondaires, hein, mon collègue australien Parkinson parle, on discute pas de la maison, on discute pas de l'emplacement de la maison, du principe de la construire, mais on discute du papier peint. Je ne vois pas ce qui peut motiver finalement ces acteurs-là à se déplacer. Troisième problème, le problème de l'instrumentalisation. Par peur de la participation, hein, parce qu'il faut bien parler de crainte de la participation, la tentation finalement de verrouiller les dispositifs est extrêmement forte. Un consultant me disait il y a quelques mois, il me disait qu'un élu lui avait demandé de mettre en place une participation, ou je ne sais plus, une consultation sécurisée. Hein, ça veut dire qui doit aboutir nécessairement à l'idée de départ, au projet de départ. On a effectivement des tas de techniques. J'ai encore, moi, quelques minutes. Ouais. On a des tas de techniques, de technologies, de communication notamment, de gestion de la discussion, d'animation, qui permettent finalement de cadrer celle-ci pour qu'elle produise les effets que l'on veut lui voir produire. Ça, c'est un risque. C'est un risque tout à fait important, qui est lié aussi à la professionnalisation de ces processus, et de ce risque, il faut être conscient. Quatrième problème, c'est le problème du lien avec la décision. En dehors du budget participatif, aucune procédure n'a véritablement réussi à régler cette question de l'articulation, de la délibération, de la discussion, de la délibération au sens anglo-saxon et de la décision, pour une raison toute simple. C'est que pour le faire, il faudrait se débarrasser du cadre de la représentation. Il faudrait jeter le bébé avec l'eau du bain, c'est-à-dire dire « ce sont les citoyens qui décident ». Mais dire cela, c'est prendre un risque phénoménal. Ce risque, il est lié au fait qu'aucune de ces procédures n'a véritablement démontré sa capacité à produire de la légitimité. Hein. Tout simplement, aucune de ces procédures n'a pour l'instant démontré sa capacité à produire des décisions dans lesquelles ceux qui n'ont pas été consultés, ceux qui n'ont pas été associés, se reconnaîtront. Puisque c'est ça, hein, la représentativité et la représentation. On a des risques qui sont avérés de privatisation de l'espace public par des petits groupes qui, finalement, au nom de la démocratie participative, contribuent à capter, finalement, la discussion. Et de tout cela, finalement, personne ne veut. Et tant que la démocratie représentative reste finalement le plus petit dénominateur commun à tous les démocrates conséquents, on ne pourra jamais garantir que la participation infléchira la décision, puisque ce sont les élus qui auront toujours le dernier mot. Un exemple cependant, qui me paraît intéressant, c'est l'exemple aujourd'hui beaucoup discuté de l'Assemblée citoyenne canadienne, de Colombie-Britannique, dans lequel on a articulé une assemblée de citoyens, d'une centaine de citoyens, qui ont élaboré ensemble un projet de réforme du mode de scrutin sur un référendum. Et en associant ces deux dimensions, c'est-à-dire en donnant au peuple dans son ensemble le dernier mot, à mon avis, on règle, mais c'est très lourd, cette question. Quatrième point, et je ne veux pas être trop long, et puis il faudra je reparte, hein, je crois, impérativement à 6h30. Quatrième point, mais il faut qu'il y ait de la discussion. Il faut laisser du temps. Pourquoi faut-il s'y intéresser? Qu'est-ce que ça change? au final. Pourquoi, contrairement à ce que pensent beaucoup, tout ça n'est pas qu'une ruse finalement de la communication politique, tout cela n'est pas, me semble-t-il, destiné à s'éteindre aussi facilement que certains l'espèrent dans les années qui viennent. Pour plusieurs raisons. Première raison, c'est ce que j'ai appelé dans mon livre « Les arts de la résistance », du nom d'un ouvrage de James C. Scott, qui vient juste d'être traduit en français, que je vous conseille. « La domination et les arts de la résistance », James C. Scott, je crois que c'est aux éditions Amsterdam. Très très bon livre d'un sociologue américain sur l'attitude du peuple face à la politique et aux dominants. L'idée, c'est que, j'ai un peu déplacé sa notion et son concept, l'idée, c'est que il faut faire confiance aux citoyens pour ne pas être la dupe très longtemps de ces procédures. Les citoyens ont toujours plusieurs stratégies à leur disposition. La stratégie de la loyauté, qui présente des inconvénients, évidemment. La stratégie de la voice, je reprends la tripartition d'Hirschman, ils contestent. Ils débattent sur le dispositif. C'est le fameux débat sur le débat. C'est-à-dire qu'ils le remettent en cause. Et pour moi, c'est déjà une avancée démocratique que de dire, vous prétendez faire de la participation, en fait, vous n'en faites pas. Et ce sont souvent, ces débats publics sont des lieux où l'on conteste la procédure elle-même. Et donc, où on pousse ceux qui la mettent en place à être cohérents et à finalement soit être hypocrite, soit mettre en conformité leurs actes et leurs discours. Et puis la dernière échappatoire, c'est l'exit, l'indifférence. Les procédures qui n'ont vocation à produire que du vide ou que du rien sont des procédures qui sont vouées très très rapidement l'essoufflement, à la désintégration, à l'extinction. Et le gros problème, par exemple, de beaucoup de conseils de quartier dont on n'a pas voulu véritablement faire des lieux de débat et de discussion, le grand problème de beaucoup de conseils, par exemple, de jeunes, etc., c'est que au bout d'un moment, plus personne ne veut jouer le jeu et qu'ils sont condamnés finalement à disparaître. Et de ce point de vue-là, il y a une sorte de retournement contre les politiques de la situation. Deuxième avancée démocratique, là, d'un point de vue plus général, c'est qu'aujourd'hui, on assiste à un déclin des discours d'autorité, des pratiques d'autorité, des comportements d'autorité. L'argument d'autorité qui consiste à dire « voilà, c'est comme ça parce que je sais ou parce que je suis en position de décider » est un argument qui perd beaucoup de son efficacité dans des tas de contextes. Et ça, d'un certain point de vue, la démocratie participative est un symptôme d'un phénomène beaucoup plus général qu'on retrouve dans des tas d'institutions. Et pour moi, c'est une avancée démocratique. Lorsque vous avez véritablement possibilité d'interpeller les autorités pour leur demander de justifier ce qu'ils disent, c'est une avancée du débat politique. Et ça arrive de plus en plus souvent. La Commission nationale du débat public, dont je vous parlais, si elle n'avait qu'une vertu, ce serait de contraindre le débat à lieu sur 4 mois. À l'issue du débat, la commission statue sur le débat. Elle ne statue pas sur le projet lui-même. Mais dans un délai de 3 mois après la fin du débat, après le rapport de la Commission nationale du débat public, le maître d'ouvrage est obligé de dire ce qu'il va faire et de dire en quoi il a pris ou non en compte ce qui a été dit au cours du débat. Et donc, il est mis en position de responsabilité politique. C'est-à-dire que, certes, les élus doivent rester les responsables, mais rester les décideurs, mais en tout cas, il faut que la responsabilité politique passe aussi par là. Troisième élément important, reconnaissance d'une expertise profane, reconnaissance, et ça c'est l'essence de la démocratie, que les citoyens sont capables de discuter des affaires politiques, des affaires qui les concernent, et si on n'y croit pas, je pense qu'on n'est pas un démocrate cohérent d'un certain point de vue. Certains parlent d'expertise profane, d'expertise d'usage, il y a des tas de savoirs qui peuvent enrichir l'action publique, qui peuvent enrichir la décision politique, et c'est notamment tout l'apport du livre de Calon Lascoum et Barthes auquel je vous renvoie, qui s'appelle « Agir dans un monde incertain », qui est un livre pour moi très important de ce point de vue. C'est qu'aujourd'hui, la controverse n'est pas finalement un danger pour la décision, c'est au contraire la possibilité d'un enrichissement de la décision. Quatrième, et j'en terminerai par là, quatrième effet ou série d'effets, les effets ne sont pas massifs. les effets ne sont pas unilatéraux. C'est-à-dire que la démocratie participative, c'est le meilleur, et la meilleure et la pire des choses. Hein. Elle produit finalement aussi des frustrations, des déceptions qui peuvent nuire à l'idée même de participation. Mais en même temps, ça produit des effets. Ça produit des effets sur la manière dont les élus traitent les gouvernés, la manière dont ils expliquent la décision, la manière dont ils préparent les projets. L'un des effets majeurs de l'institution du débat public, c'est d'obliger les grands maîtres d'ouvrage type EDF, type ministère de l'Équipement, maintenant MEDAD, ça les oblige à intégrer avant le débat public les arguments qui se produiront dans le débat public. Et donc, on a des projets qui sont mieux ficelés d'un certain point de vue. On a des changements organisationnels. L'exemple, par exemple, du budget participatif des lycées en Poitou-Charentes, qui est une des initiatives mises en place par la présidente que vous connaissez tous, mais une initiative intéressante et plutôt innovante dans le cadre français. Donc on fait discuter 15% du budget affecté par la région au lycée, du budget d'investissement, par les lycéens, les profs, par le personnel Atos qui discute et qui définissent des projets qui seront financés, quoi qu'il arrive, par la région, que la région s'engage à financer. Cette opération du budget participatif, elle a eu une vertu très évidente. Cette vertu, c'est de changer la manière dont les services de la région travaillaient, c'est-à-dire de la rendre plus efficace, mieux informée des réalités, etc., etc. On a des changements résiduels, mais qui sont des changements relativement intéressants. Hein, on peut considérer que ça n'a aucune importance, mais je crois que ça n'est pas négligeable. Dans mon bouquin, je termine par plusieurs préconisations, hein, très brèves, sur les conditions pour que ça marche, éventuellement, s'intéresser aux détails, aux formes de la discussion, aux formes matérielles. Utiliser, par exemple, Internet, ça n'est pas du tout indifférent, ça produit des effets. Organiser la salle pour faire en sorte que ça ne soit pas une salle dans laquelle il y ait d'un côté ceux qui savent et d'autre côté ceux qui contestent, c'est très important, le temps, etc. Deuxième élément qui me tient beaucoup à cœur, c'est de consolider la position des acteurs qui, dans une démocratie, ont vocation à faire vivre le débat public. Hein, c'est-à-dire, on peut parler de pouvoir neutre, comme je le fais, de tiers garant, d'institutions indépendantes, mais la démocratie, c'est aussi autre chose et pas simplement l'élection. Ce sont des institutions qui font exister le débat public. La Commission nationale du débat public en est un, mais on peut en imaginer d'autres, notamment à l'échelle locale. Il faut jouer sur la complémentarité des dispositifs. Il ne faut pas oublier que la démocratie, c'est à la fois ce que je viens de décrire, mais aussi les institutions qu'il faut réformer. Je ne dis pas que s'intéresser à la démocratie participative oblige à se désintéresser de la réforme constitutionnelle. Par exemple, le cumul des mandats est la mère de toutes les batailles, hein, pour changer la culture politique de notre pays. Et je ne dis pas non plus que tout cela revient à se désintéresser de la démocratie de contestation, de la démocratie qui vient du bas. C'est-à-dire que penser l'institutionnalisation, c'est aussi penser que cette institutionnalisation, elle ne peut pas faire vivre la démocratie indépendamment d'une vraie critique venue de la société. Et puis le dernier point, c'est ne jamais oublier que l'idéal d'inclusion politique est un idéal, à mon avis, principiel dans ce domaine, et que des dispositifs qui ne feraient que renforcer les inégalités sociales face à la participation ne mériteraient absolument pas qu'on s'y intéresse. Voilà.
Ben merci Loïc pour avoir si brillamment et avec autant de conviction et de bons arguments présenté le dossier de la démocratie participative. Je me demande si l'expression démocratie participative est bien appropriée en réalité. C'est vrai qu'elle elle est à la... Enfin, tout le monde la comprend, mais en même temps, elle est un petit peu trompeuse parce que tu dis toi-même que ce n'est pas de la démocratie directe, tu dis toi-même que ce n'est pas le retour à l'idéal grec, pour autant qu'il ait été d'ailleurs vraiment participatif, et qu'en réalité, ce qu'il s'agit de faire, c'est d'intégrer dans les mécanismes délibératifs qui, dans le sens français, parce que dans ton livre tu notes bien qu'il y a une différence qui peut-être explique pourquoi on est moins porté à discuter de la démocratie sous l'angle délibératif en France, parce que délibératif dans la philosophie anglo-saxonne c'est extrêmement valorisé, tandis qu'en France la délibération c'est en fait le moment où on signe, on tamponne et où on passe à un greffier. Mais finalement c'est de ça que tu parles, c'est-à-dire que dans le débat il y ait à un moment donné la possibilité de faire que des gens qui ne prennent pas part à ces débats, parce qu'ils n'en ont pas l'occasion, parce que le dispositif n'est pas fait pour ça, parce que c'est une démocratie vraiment représentative dans laquelle on confie les clés de la maison pendant 4 ou 5 ans à des gens, et ensuite si on ne veut pas les réélire, on ne les réélit pas. Donc pour toutes ces raisons, il n'y a pas de possibilité véritablement de délibérer. Moi je préfère l'expression démocratie délibérative parce que justement les philosophes qui se sont intéressés à ça, notamment des Australiens, se sont posés vraiment ce problème du coût d'accès. Ils sont tous partis du fait que tu connais bien, qu'on a tous rencontré dans nos travaux empiriques, que les gens sont toujours très passionnés par la politique, ils ont toujours très envie d'en parler. Et quand on leur donne l'occasion, ils disent souvent, on nous invite pas, hein, on nous invite pas, on veut pas nous entendre, naturellement, c'est normal. Mais quand on leur donne l'occasion de s'exprimer, alors là, souvent, ils sont muets. Il y a assez peu de gens qui utilisent les occasions qui leur sont données, y compris par exemple dans les conseils municipaux, les commissions extra-municipales qui existent ici, comme tu le dis dans ton livre aussi, depuis les GAM, donc depuis très longtemps, de 1964 probablement, si mes souvenirs sont bons, et effectivement les gens ils viennent, et puis ils disent qu'ils vont casser la baraque, avant, on va voir ce qu'on va voir, et puis quand ils sont dedans, il se passe plus rien, ils écoutent, et tout le monde se tourne vers ceux dont on pense que va venir la contestation, les informations nouvelles dont auraient besoin les politiques pour décider, et il ne se passe rien. Et ça, bon, plein de théoriciens, dont Eliassov, que tu cites aussi, ont expliqué que les gens ont toujours peur d'être humiliés. Ils ont peur d'être humiliés, tout simplement. C'est-à-dire, ils ont peur d'être à côté de la plaque, qu'on leur fasse observer, que par conséquent, ils se soient discrédités, qu'ensuite, ils n'aient plus la possibilité, ils ont perdu leur crédit, donc ils n'ont plus la possibilité de réintervenir. C'est un coût social énorme vis-à-vis de ceux dont on dit qu'on va prendre la défense, dont on sera le mandataire ou le représentant. Et au bout du compte, finalement, on est dans une situation où il y a une sorte d'étouffement. Donc, si tu travailles sur la délibération, tu travailles sur les conditions dans lesquelles des gens qui n'ont pas l'habitude de ce type de débat sont petit à petit amenés à comprendre comment ça fonctionne et à entrer dans le débat en restant eux-mêmes. Et ça, c'est ce que tous les théoriciens de la libération font. Donc moi, je suis un peu réticent sur l'expression démocratie participative. Je sais que bon, elle se vend bien politiquement, mais en même temps, tu dis tellement de choses qui la critiquent, à juste titre, qu'au bout du compte, j'ai peur que ça apparaisse comme quelque chose de tellement marginal que, avec un coût quand même relativement important en termes financiers, en termes de temps, en termes d'énergie, en termes de coûts de transaction pour les politiques qui sont déjà surchargés, que même si on en fait un thème de campagne, c'est déjà arrivé, ça pourrait revenir, au bout du compte, il se passe rien, rien ailleurs qu'au niveau local, où de toute façon ça fonctionne déjà d'une manière ou d'une autre, même quand il n'y a pas véritablement de budget participatif à la Porto Alegre. Il y a des gens qui viennent quand on discute du budget dans une municipalité et qui s'expriment pendant le conseil municipal. Ça existe aussi. Alors, moi, donc j'ai ce premier problème, j'aimerais savoir ce que tu en penses. Deuxième chose, finalement, qu'est-ce qu'on attend d'une participation plus grande au débat, à la délibération? Moi, je vois trois choses dans ton livre et en général. Il y a la possibilité de dire, au fond, les gens ont des expériences existentielles différentes. Bon, celui qui est chômeur, il est chômeur, il a une expérience du chômage. Celui qui a une antenne devant chez lui de télécommunication ou une ligne à haute tension, il a une expérience que les autres n'ont pas. Donc si on cumule ces expériences, on a des chances, au fond, de prendre une meilleure décision qui conviendra mieux à la plupart des gens. Et en tout cas, ça vaut la peine d'écouter les gens qui ont l'expérience de l'intérieur. Dans les expériences de débat délibératif à la Fishkin, c'est une des choses qui ressort le plus. Alors, quand on met les gens face à face, il y a toujours un type qui commence, parce qu'ils font des films aussi leurs délibérations, il y a toujours quelqu'un qui commence à faire un speech en disant « c'est scandaleux qu'il y ait... » Alors il y a ce film extraordinaire où on voit un commerçant américain, probablement d'origine méditerranéenne, qui est là et qui est assez en chair, et qui explique devant une petite assemblée à quel point c'est scandaleux qu'il y ait des mères célibataires à 14 ans, 15 ans, 16 ans, parce que qui paye pour le welfare de ces mères célibataires, c'est lui, etc. Il parle pendant 10 minutes comme ça, et puis tous les autres trouvent ça assez indigne. Donc il y a vraiment, sauf une dame, une noire, qui est là en face et qui sourit et qui s'exprime et qui a l'air très sympathique. Donc le gars s'adresse de plus en plus à elle, et à un moment donné, le modérateur dit « Bon, ben, madame, vous avez l'air de trouver que c'est très intéressant, vous voulez nous dire dans quelle mesure vous soutenez cet argument ?» Et la dame dit « Mais non, je ne soutiens pas, je dis « C'est moi, c'est l'expérience de ma vie, moi je suis une mère célibataire, moi j'ai fait tout ce que vous avez dit. » Alors le gars se décompose complètement, d'un seul coup il a en face la réalité. Et ils tombent dans les bras à la fin, donc ils sont pas loin de tomber d'accord sur les mesures qu'il convient de prendre, qui sont pas du tout les mesures auxquelles pensait le monsieur en question. Donc ça, c'est une première chose. La deuxième chose, c'est éclairer le débat, par des arguments du type Habermas, c'est-à-dire des arguments vrais, fondés, authentiques, etc. Bon, ça, déjà beaucoup plus compliqué. La troisième chose, dans ton livre, à plusieurs reprises, tu reviens dessus, dans le discours public, les gens dont tu es proche, politiquement, le font aussi, c'est revenir à l'idéal grec de « ô boulomenos », « n'importe qui peut » intervenir n'importe quand sur n'importe quoi. Chose qu'on a bien perdue, puisque justement, désormais, il y a à la fois les représentants qui sont des professionnels de l'expertise de tout genre, en général, et puis il y a les experts qui sont les professionnels d'un truc en particulier, d'un domaine en particulier. Et l'idée que la démocratie, c'est que n'importe qui puisse n'importe quand intervenir sur n'importe quoi, c'est une idée qu'on a perdue. Et on a l'impression que tu hésites un petit peu, et c'est peut-être aussi à cause de ça que tu hésites sur le titre, tu hésites sur qu'est-ce que c'est qu'on veut. Est-ce qu'on veut que des gens, bon, Daniel Gaxi, lui, dit toujours, les gens qui ont cette expérience existentielle, c'est d'eux dont on a besoin, ils sont jamais là, on peut pas les faire venir. Quand on les fait venir dans un dispositif comme celui-là, évidemment, ils s'expriment pas. C'est normal, ils laissent le micro. Bon, par ailleurs, toutes les expériences que j'ai faites moi-même montrent que dès qu'on est dans un lieu, quel qu'il soit, qui est voué à la délibération, les gens sont comme dans une église. Très très vite, ils adoptent des procédures de... Oui, mais ils se mettent... Il faudrait, en fait, pour faire ce que tu dis, il faudrait se mettre dehors, en plein air, et ça marcherait sans doute beaucoup mieux. Donc voilà, moi c'est un petit peu le problème, si tu veux, j'ai le sentiment que tu navigues entre ces trois choses et que tu n'as pas complètement choisi, parce que tu es un politiste français qui a une autre partie du débat en France qui est très politique immédiate, on voit bien les enjeux électoraux aussi, et que si tu étais un philosophe australien, peut-être que tu tirerais plus vers l'idée de démocratie délibérative dans laquelle on essaye de donner aux humbles, aux modestes, aux gens qui ne sont pas équipés pour faire partie du débat, les moyens de s'exprimer.
Non, sur la notion de démocratie participative, oui, j'ai bien conscience de ces ambiguïtés, j'ai bien conscience de ses limites, j'ai bien conscience qu'elle est à la fois trop étroite et beaucoup trop vaste, parce que la démocratie participative est aussi associée à l'ensemble des mobilisations, c'est-à-dire qu'on peut avoir une vision de la démocratie participative institutionnalisée, qui est celle qui est mon objet de recherche, qui n'est pas forcément celle auquel je résume l'idéal démocratique, hein, et l'objet démocratie, mais il y a aussi la démocratie informelle, hein, vraiment qui, et quelquefois les deux choses sont un peu confondues, et c'est vrai que ça peut poser un problème. Et donc le problème, c'est est-ce qu'on en trouve une autre notion, difficulté d'importation de la notion de délibération, démocratie délibérative, mais je persiste à penser que pour les théoriciens de la démocratie délibérative les plus conséquents, hein, évidemment, il y a un idéal qui est à la fois un idéal d'argumentation et un idéal d'inclusion. Hein. Les deux choses sont liées, c'est-à-dire que cette délibération, elle ne vaut que parce qu'elle implique tous ceux qui sont affectés, en théorie évidemment, tous ceux qui sont affectés par la discussion et par la décision. C'est vrai qu'ils intègrent ces deux notions. Moi, je m'y retrouve, sauf qu'il y a une troisième notion qui est celle du nécessaire, mais elle est peut-être incluse dans celle-là, du nécessaire équipement politique des citoyens qui doivent faire l'apprentissage finalement de ces formes d'expression, parce qu'il y a un effet vertueux. Moi, je suis très John Stuart Mill. Hein. John Stuart Mill, à propos des femmes ou des ouvriers, à question du droit de vote, il était très, très, très cohérent, très clair. Il dit, finalement, il ne faut pas attendre qu'ils soient éduqués, il ne faut pas attendre qu'ils soient informés avant de leur donner le droit de vote. C'est le droit de vote qui va les éduquer et les informer. C'est-à-dire que, grosso modo, il faut renverser complètement le raisonnement. Moi, je suis totalement sur cette situation, c'est-à-dire faire du niveau d'éducation ou du niveau de compétence un préalable, c'est une vraie question. Je pense qu'effectivement on acquiert dans ces processus-là l'expérience et les compétences qui vous permettent après de juger politiquement. Et en même temps, je suis pour ça, et en même temps, je suis tout à fait sensible à cet argument absolument massif qui est défendu par les défenseurs du tirage au sort. Moi, j'ai des difficultés avec le tirage au sort. J'ai une vision, notamment mon collègue Saint-Omer a fait un livre pour réhabiliter le tirage au sort après Bernard Manin. Il y a toute une réflexion là-dessus qui est fondée là-dessus. C'est-à-dire, pourquoi on tire au sort les gens? Et l'argument le plus fort pour défendre le tirage au sort, c'est l'argument du n'importe qui. C'est-à-dire que finalement, il faut accepter que l'on confie un certain nombre de jugements à des gens qu'on a prélevés dans le social et qui pourraient être n'importe lequel d'entre nous. Et la question, c'est que ça suppose que l'on se reconnaisse finalement dans ce n'importe qui, dans ce n'importe lequel d'entre nous, hein, que ceux qui n'ont pas fait partie de la procédure acceptent, comme dans le jury criminel. Dans le jury criminel, on accepte. Il y a une acceptation conventionnelle parce qu'on se reconnaît et en tout cas, bon, on se projette. Alors que pour les questions politiques, c'est beaucoup plus compliqué. Et moi-même, je n'aimerais pas qu'un certain nombre de décisions essentielles, il faut être logique, soient prises sur la seule base du tirage au sort. Ce serait un risque énorme. Je ne sais pas si vous imaginez, on tire au sort une centaine de citoyens et on les fait décider de choses extrêmement importantes. Je ne suis pas sûr de me laisser complètement aller à cette position. En même temps, je suis sensible à l'argument symbolique de fond qui est que face aux questions politiques, c'est le Protagoras que je cite dans mon bouquin, face aux questions politiques, nous sommes normalement dotés des mêmes droits et des mêmes qualités pour en décider. Ouais, c'est vrai que je suis assez ambigu sur cette question et qu'elle mérite en tout cas d'être discutée.
Avant de passer la parole à qui la veut, je voudrais juste ajouter une autre chose. Tu as cité l'expérience de British Columbia. Ouais. Là, ce qui est intéressant, c'est que pour le coup, on a une expérience nationale. Parce que le fait qu'ils aient été 150 ou 155, c'est pas le nombre en soi qui est intéressant. C'est pas si par rapport aux 20 ou 30 que dans la région Rhône-Alpes on choisit comme ça, comme un panel représentatif de toute la population. Mais c'est parce que l'assemblée ordinaire de British Columbia est du même nombre. C'est-à-dire qu'on a sur pied d'égalité, au même moment, deux assemblées qui fonctionnent. Ça, c'est le point intéressant de l'expérience. Et les deux sont chargés de proposer un projet de réforme de la loi électorale, ce qui est quand même très souverain. C'est pas le papier peint, là, pour le coup. Là, c'est vraiment les fondations. Et les deux arrivent, dans les mêmes délais, à une loi électorale qui s'inspire des mêmes principes, donc un peu différent de ce qui existe, ce qui est le système anglais. The winner takes all, enfin, grosso modo. Une majorité extraordinaire, écrasante à celui qui arrive un tout petit peu devant. Mais avec des différences. Je signale d'ailleurs que c'est intéressant, il faut aller regarder sur le site British Columbia, c'est vraiment très intéressant. Une des différences principales, c'est que l'assemblée de citoyens essaye de faire en sorte qu'aucune voix ne soit perdue. C'est-à-dire que dans un système dans lequel, au fond, quand on gagne, et puis après il y a un second, puis après un troisième, ils ont fait des calculs, ils se sont rendus compte que quand on élisait plusieurs personnes comme ça, ben, il y avait des gens qui se passaient à la trappe, alors qu'en réalité, si toutes les voix avaient été comptées, ils auraient eu plus de voix, ils auraient été finalement élus à la place de quelqu'un d'autre. Donc c'est ça leur préoccupation de base. Une justice, alors que évidemment l'assemblée des élus, c'est plutôt d'efficacité. Mais quand même, c'est le même principe. Qu'est-ce qui se passe, tu le signales dans ton livre, il y a un référendum. Au référendum, ils ont une majorité. Mais ils n'ont pas la majorité des comtés telle qu'elle est prévue au départ dans la loi qui instaure le dispositif. Et à partir de là, eh ben, ils sont perdus. C'est-à-dire ils ne savent pas quoi faire. Ils tournent en rond depuis l'époque parce qu'ils ont une majorité de gens qui ont voté pour le projet des citoyens contre le projet des élus, mais ils n'ont pas l'autre indicateur dont ils ont besoin, l'autre condition n'est pas remplie. Et donc on va nulle part. Mais bon, ça c'est un problème, parce que toi tu travailles surtout sur des expériences qui sont des expériences spécialisées et locales. Enfin, plus c'est technique, plus c'est proche, plus ça peut fonctionner. Mais pour que ce soit véritablement inclusif, il faudrait que ce soit national. Non ?
Oui. Non, c'est un défi. C'est un défi. Pour l'instant, il y a très peu d'expériences qui ont démontré.
On n'a qu'à faire ça ensemble. Voilà, ouais. Tu es à la tête d'un GIP, d'un groupement d'intérêt public, qui, ouais, etc. Donc ouais, peut-être que... Voilà. Ouais. On va prendre des questions maintenant pendant le... Alors tu dois impérativement partir à la nuit.
Oui, à 6h30 parce que j'ai un train à 7h. Je vous dis ça, mais c'est pas bien.
20 minutes
pour
aller à la gare.
Parce que ça
rappelle
qu'on est parisien, donc c'est pas bien. 7h21.
Oh là, tu as largement le temps.
En partant à moins 20. Je suis un angoissé.
Non, en partant à moins 20, tu ne peux pas le manquer. Une heure avant, tu vas attendre le train sur le quai de la gare.
Ouais.
Bon. Alors, question. Ah voilà, bonne expérience de démocratie participative.
Vous devriez compenser le nombre par la qualité, parce qu'on dit souvent ça dans les dispositifs participatifs. Oh, ils n'étaient pas très nombreux, ils n'étaient pas très représentatifs, mais alors, quelle discussion de qualité. Mais là...
Bon, allez, on vous écoute.
S'il n'y a pas de questions, c'est pas grave. On a eu l'occasion d'une discussion, j'ai fait une conférence.
Il y a toujours des questions. La question de savoir qui pose la première question, c'est la vraie question. Guillaume.
Il y a quelque chose qui traverse votre propos sur deux points, sur celui des élus et sur celui des finalités de la participation. Au final, dans les typologies qui sont établies sur les raisons qui poussent pousserait éventuellement à prendre des participations et à les faire tourner, fonctionner depuis les institutions publiques, il y a la coexistence de ces choses-là, mais il n'y a pas de tension. C'est-à-dire qu'on a l'objectif de politisation, on a l'objectif d'amélioration de la décision, on a l'objectif, enfin, on pourrait multiplier les normes éventuellement de manière quasiment spéculative en imaginant ce que pourraient penser les élus en mettant en place ce genre de truc-là, où on va dire qu'on veut préparer la discussion, donc il est marginalisé, mais en même temps, il faut que ce soit crédible. Donc j'ai l'impression qu'on fait une catégorisation élue, on fait un paquet en leur attribuant sur un modèle un peu sociographique, en disant les élus sont comme ci, sont comme ça, donc ils sont amenés à avoir ce genre de comportement. Et est-ce qu'il n'y a pas au final plus une concurrence et une compétition assez ouverte entre ces objectifs-là, dans les objectifs même des élus? Je ne dis pas qu'il y a des élus qui veulent plus politiser la situation ou des élus qui veulent plus améliorer la décision publique, mais quand des élus adoptent ça, il y a une tension qui se crée entre ces objectifs-là, et est-ce qu'au final le flou et le recours à la participation, même si il articule cette tension-là entre un objectif d'émancipation, de politisation de la population et un objectif d'amélioration, il ne repose pas sur le même postulat de base, qui est que pour gouverner, aujourd'hui, on a besoin de plonger les racines du pouvoir de plus en plus loin, de plus en plus profondément dans la société, dans le territoire, dans la population. Après, et du coup, est-ce que ça pose pas la question de la marginalité de certains débats dans les sphères politiques qui prennent une place conséquente dans la science politique? J'entends par là de dire qu'on se prend beaucoup de temps à débattre sur oui, l'atelier citoyen fait ci, a fait ça, il a permis plus de délibération, etc. Mais j'ai l'impression que ces débats-là, quand on observe comment ils sont utilisés par les institutions, ils sont assez marginaux, et que ceux qui comptent, autant pour les gens qui veulent émanciper que pour les gens qui veulent améliorer la décision, c'est d'avoir les doigts insérés le plus profondément possible dans ce plan social.
Ça fait plein d'aspects du problème liés. Bon, première, alors, ce qu'il faut démontrer, c'est-à-dire en faisant des monographies sur la manière dont au sein d'une même institution, bon, prenons au hasard un conseil régional, on a des acteurs qui sont porteurs de visions différentes de la démocratie participative, ça je suis preneur et j'ai le sentiment que ça se passe volontiers comme ça. On voit bien comment certains acteurs dans des municipalités ou relativement marginaux poursuivre leur stratégie politique, notamment c'est souvent des acteurs du parti minoritaire dans une coalition majoritaire, hein. C'est souvent eux qui sont les, en tout cas il faudrait des études statistiques qu'on n'a pas encore menées, mais je pense qu'on peut faire l'hypothèse que c'est souvent comme ça et qu'ils ne sont pas, absolument pas forcément appuyés par le reste des élus qui, eux, ont une vision beaucoup plus limitative en termes beaucoup plus de communication, la démocratie participative. Il y a des conflits, je pense, hein, des conflits de vision à l'intérieur, et qu'on parlait des élus en général, c'est quelque chose d'extrêmement limitatif et d'extrêmement caricatural. Donc ça, je suis preneur de cette première idée. La deuxième idée qui est plus déstabilisante pour moi, c'est de dire que la loupe, la lorgnette de la recherche en sciences sociales contribue à hypertrophier l'importance d'expériences ou de phénomènes qui, dans la réalité politique, sont des phénomènes relativement marginaux. J'ai tendance à dire oui. Ce qui n'est pas marginal, c'est cette tension vers la participation. C'est cette impression, par exemple, qui fait que personne ne peut véritablement être contre, ou en tout cas, il y a un coût à se dire contre un dispositif de participation. Il y a une norme, c'est ça. Ça montre qu'on n'est pas dans la marginalité. Mais c'est vrai que une des déformations de ce pan-là de la littérature, par exemple l'expérience de l'Assemblée de citoyennes de Colombie-Britannique ou l'expérience de Porto Alegre, laisse de côté, en sélectionnant une partie de la réalité du gouvernement, de ces institutions-là, une partie des expériences aussi qui s'inscrivent dans des stratégies beaucoup plus complexes, ont tendance à vraiment... oui, ça je suis d'accord. En même temps, comment est-il possible de faire autrement quand, lorsqu'on est dans ma position à moi, le propos est double. Il est à la fois de décrire, d'analyser, de comprendre ce qui se joue, mais il est aussi d'envisager ce qui, dans la philosophie politique, peut s'expérimenter. Hein. C'est-à-dire que mon propos est vraiment double. Et je pense qu'il faut, d'un certain point de vue, les deux choses ne s'excluent pas dans une démarche de recherche. Moi, je veux comprendre ce que font les acteurs, ce qu'ils font de ces dispositifs et ce que ces dispositifs peuvent leur faire. Mais je veux essayer de comprendre aussi comment on peut expérimenter des idéaux qui sont produits par la conceptualisation. Et dans cette seconde perspective-là, les deux peuvent se contredire à un moment, mais dans cette seconde perspective-là, il faut bien, d'un certain point de vue, pas déformer la réalité, mais en tout cas attacher beaucoup plus d'importance à certains aspects de la réalité, sans prendre des vessies pour des lanternes, hein, puisque bon, voilà, c'est le risque aussi, que d'autres. Voilà, c'est ma réponse aux deux questions.
Une autre question ? Oui.
Je voudrais revenir sur une chose que vous avez parlé en filigrane et à quelques instants, c'est-à-dire la démocratie participative par usage de la technologie de communication. Est-ce que vous pouvez pas, est-ce que vous connaissez des expériences concrètes qui sont passées ? Est-ce que on a des premiers feedbacks, des premiers retours sur ce genre d'expérience ? Quelle est votre opinion notamment sur sur ces expériences qui peuvent à la fois introduire plus de monde, qui peuvent aussi annihiler toutes les limites telles que la retenue qu'on peut avoir en communauté, qui peut aussi être un espace de partage collaboratif sur les outils ou sur les autres mailing lists. Est-ce que vous avez des expériences?
Vous allez lui faire rater son train, là.
Ouais. Non, mais bon, je sais pas. En ce moment, il se fait plein de choses dans ce domaine-là. Et effectivement, j'ai décidé de m'y intéresser un peu plus que ce que je m'y étais intéressé. J'avais tendance à trouver un peu excessif les prophéties autour de la démocratie électronique. C'est-à-dire que, bon, il y a une inflation, là, pour le coup, encore plus importante, une inflation rhétorique.
Mais qui
a des formes scientifiques, parce que par exemple il y a des tas de projets de recherche au niveau européen financés à hauteur de vraiment beaucoup d'argent par différentes fondations et les institutions européennes autour de cette idée. C'est une idée qui est vraiment très à la mode. Et moi, j'ai eu tendance pendant très longtemps à tordre le bâton dans l'autre sens en disant c'est beaucoup de bruit pour rien, parce que j'ai pas en tête effectivement de récits, d'expériences ou d'analyses scientifiques sérieuses qui permettraient un retour sur ce que ça produit. Alors il y a plusieurs éléments quand même qui émergent notamment, bon, je pense au travail très intéressant de ma collègue Laurence Monnoyer-Smith, qui entre parenthèses interviendra au moment du forum Réinventer la citoyenneté, qui a comparé sur un même débat public l'usage du net, des forums électroniques et des réunions publiques, et dans laquelle elle montre effectivement ce que vous dites, c'est-à-dire une sociologie différente, hein, notamment les jeunes beaucoup plus à l'aise sur le net que dans les réunions publiques, et des formes d'argumentation, des formes de contestation qui sont beaucoup plus qui sont différentes, hein, dans l'une et l'autre sphère du réel, parce que ce sont deux sphères possibles de la réalité. Donc on aurait tout à fait intérêt finalement à expérimenter ce que ça produit, en sachant que ça produit pas forcément de la délibération de qualité. C'est un des enjeux. L'enjeu, c'est quand même la qualité de la délibération pour la démocratie.
Tu vois, tu es démocratie délibérée.
Non, mais moi, je me désintéresse pas de ça, mais la qualité de la délibération, c'est, et pour le coup, on voit bien, alors là, c'est les travaux de Bernard Manin, de Kassenstein, ça polarise. C'est-à-dire qu'on ne discute vraiment bien qu'entre gens qui avons la même opinion sur un sujet. Hein, et donc, il y a des effets de polarisation et pas du tout d'effets de confrontation ou de diversification de l'opinion. Et quand il y a confrontation, elle mène très facilement au clash. Et donc à la violence, hein, ce qu'on appelle le troll, etc. C'est tout ce qui et donc il est très difficile de faire vivre, même expérimentalement sur le net, une délibération de qualité, sachant que dans l'ordinaire, dans le quotidien du net, cette délibération, elle n'est pas du tout démontrée. La plupart des sites de discussion soit aboutissent à des confrontations vraiment frontales, soit ne concernent que des gens qui ont vraiment un dénominateur commun très des choses en commun très fortes. Donc il y a des choses, hein, c'est vraiment il y a un bouillonnement de travaux et je ne désespère pas de m'y intéresser pour vous répondre plus précisément. Mais non, il y a plein de choses. Voilà. Non, un dernier point sur les limites, c'est que là, pour le coup, si on s'intéresse à l'interface élu-citoyen, les élus ne savent pas comment les utiliser. On l'a bien vu avec la campagne Désir d'avenir de Ségolène Royal, c'est-à-dire que dès que ça atteint vraiment, même avec toutes les modérations, même avec tout, d'un certain point de vue, là, il y avait, c'était le site Désir d'avenir, mais il y avait quand même l'intention à un moment d'en faire quelque chose, c'est à la fois très compliqué techniquement et encore plus compliqué politiquement. Et donc du coup, ces expériences de construction d'un point de vue commun par Internet avec un public qui est un public virtuel, donc qui n'est pas référencé ni sur le public du parti, ni sur le public d'un territoire ou d'une nation, ça s'est révélé politiquement et techniquement extrêmement compliqué. Et du coup, il y a une solution vraiment qui est un peu caricaturale, c'est de dire, on va dégager, vous vous souvenez du discours de Ségolène Royal, on va dégager des pépites, c'est-à-dire des bonnes idées. C'est extrêmement réducteur par rapport à un processus qui était censé finalement construire de l'opinion et du jugement commun à partir d'entrées extrêmement nombreuses et d'une discussion sur Internet. Donc pour l'instant, c'est assez décevant, en tout cas dans cet aspect-là.
Je voudrais juste ajouter une chose, c'est que un des objectifs des élus, qui devrait être un objectif des élus, qui est de, si on arrive à faire une délibération qui inclut plus de gens, et des gens qui d'habitude ne délibèrent pas, ça aura le mérite aussi de montrer à ceux qui, par principe, contestent la légitimité des politiques, que les décisions sont extrêmement compliquées, que c'est beaucoup plus compliqué qu'on ne le croit, et que s'y intéresser, ça veut dire faire un effort, et qu'à ce moment-là, bon, on reconnaît que quand les politiques prennent des décisions qui ne sont pas toujours satisfaisantes pour tout le monde, c'est des compromis, mais on comprend pourquoi. Parce que ça a une pédagogie extraordinaire. Sur Internet, ça, cet aspect-là, il disparaît complètement. Puisque justement, n'importe qui peut intervenir n'importe quand en disant « Ah, moi, je suis tout à fait d'accord avec le truc, et même j'irai encore plus loin, etc. » On a le sentiment qu'on peut, Faucon, Niaka, c'est très facile, quoi. L'email, il part, et puis quand il est parti, l'email, hein. Vous pouvez pas revenir dessus. C'est un autre aspect du problème.
Puis le dernier point, tu as tout à fait raison, c'est-à-dire qu'effectivement cette question de la présence physique, de la garantie de la présence physique,
c'est la coprésence,
c'est quelque chose de très important, et je pense que ça change quelque chose, c'est-à-dire sans être lévinassien, la coprésence produit des choses, et la coprésence sur une certaine durée, elle produit des choses, y compris dans la confrontation, tandis que là, vraiment l'émergence épisodique, à mon avis, est un peu problématique de ce point de vue-là.
On a encore temps pour une question.
Ah,
oui, ne stresse pas.
Si,
j'ai jamais raté ni un train ni un avion, donc ne stresse pas.
Ah, ouais.
Ça va.
Ouais, mais c'est comme ça.
Il y a encore une question possible.
Ouais. Mais si on n'a pas, par exemple.
Tu vois comment tu es. Voilà. Tu invites les gens à participer et ensuite tu leur expliques que tu es très occupé, ton emploi du temps fait que tu ne peux pas les écouter, etc.
C'est pas vrai.
Non, il y a vraiment le temps pour une question. Si quelqu'un a une question à rentrer.
Allez-y. Ouais. Question très intéressante, peu nombreuse mais intéressante. Bon, non, hein, vraiment, il faut pas forcer, hein, comme dirait Nicolas Sarkozy à Laurence Parisot, il faut pas forcer un âne qui n'a pas soif, hein, forcer à boire un âne qui n'a pas soif. Voilà.
Bon, mais écoute, alors il nous reste à te remercier d'être venu présenter ce livre. Je vous encourage encore à l'acquérir.
Petit livre rouge.
Non, c'est un très bon livre, vraiment. C'est un très bon livre.
Merci.
Oui, tout à fait.